point de ce matin, c'est la Bible. Alors, la Bible, c'est le livre de Dieu. C'est un livre précieux. Ce n'est pas un livre de discussion et d'interprétation. La Bible, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose dont on doit vraiment se souvenir. Beaucoup de gens discutent sur la Bible et parlent de la Bible, mais peu obéissent à la Bible. Peu ont la foi dans la Bible. La Bible peut être un livre de philosophie, un livre d'études, et ce n'est pas le but. Dieu, quand il a donné sa révélation, quand il a parlé, c'est pour que l'être humain le connaisse et qu'il sache ce qu'il veut, qu'il connaisse Dieu et qu'il connaisse la volonté de Dieu. Donc, quand on parle de doctrine de la Bible, c'est très important parce que la Bible est attaquée, parce que Satan essaye de détruire la pensée de Dieu et une pensée exacte, une pensée biblique de Dieu. Et il veut aussi détruire dans notre pensée, il veut détruire la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Donc, que l'on ne connaisse pas Dieu et que l'on ne sache pas ce que Dieu veut, ou qu'on le sache mal, ou qu'on ait des doutes sur ce que Dieu a dit et sur sa volonté. Donc, j'ai un verset, c'est Genèse chapitre 3, verset 1, donc je le lis. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas des arbres du Jordan ?» Voilà, il y a une question qui est posée, et cette question, c'est une question négative. Et à chaque fois, les gens disent, « Dieu a-t-il réellement dit ce qu'il a dit dans sa parole ?» Et il y a une vague d'incrédulité, et un enseignement à l'incrédulité qui se trouve même dans les églises, qui va jusque dans les églises. Même des personnes qui enseignent la parole de Dieu mettent le doute sur la parole de Dieu. Alors, c'est une des ruses de l'ennemi que nous ayons des doutes sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la base de notre foi. Et ce n'est pas simplement de la confession de foi. Mais comme j'ai dit, la foi, c'est la confession de foi, c'est la confession de notre foi. Nous plaçons notre confiance. Et si on met le doute sur la parole de Dieu, sur l'inspiration de la parole de Dieu, alors vous avez le doute sur la volonté de Dieu. D'abord sur la personne de Dieu, bien sûr, son caractère. Mais vous avez aussi le doute sur ce que Dieu nous a dit. Alors, on revient à ce premier verset du chapitre 3, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Alors, certains chrétiens lisent la Bible, ils se disent, « Mais est-ce que c'est bien ce qui doit être lu, que je lis là ? Est-ce que le texte est bien le texte que nous devions avoir ou que les apôtres ont écrit ?» Alors là, vous êtes complètement dans la confusion si jamais cette pensée entre dans votre esprit. Et je le dis parce que je l'ai eu. Je croyais à la parole de Dieu, bien sûr. Je m'attachais à la parole de Dieu. Mais il y avait toujours, au fond de moi-même, un doute. Est-ce que j'ai vraiment la parole de Dieu exacte? Ou est-ce qu'il n'y a pas des mots qui sont changés, des nuances qui sont... Et de ceci et cela et... Et donc, j'étais vraiment dans la confusion et je ne me rendais pas compte à quel point cela touchait à ma vie chrétienne, à ma marche avec le Seigneur. Parce que même si je prenais la parole de Dieu au sérieux, eh bien, j'étais dans la crainte et dans le doute de ne pas avoir exactement ce que je devais savoir et avoir entre les mains. Donc, jusqu'au jour où un frère m'a dit, « Mais qu'est-ce que tu fais de ces paroles ?» où le Seigneur Jésus a dit, « Le ciel et la terre passera, mais mes paroles ne passeront pas. » Et pour moi, ça a été vraiment. Là, le Seigneur m'a parlé. Hein. J'ai dit, mais j'ai la parole de Dieu entre les mains. C'est tout. C'est clair. Et je n'ai pas besoin de me poser tant de questions. Je me confie dans la parole de Dieu. Dieu a vraiment dit ce qu'il a dit. Après, c'est vrai qu'il y a des versions qui sont malhonnêtes. Hein. Il y a des gens qui ont traduit avec malhonnêteté, pour que les gens ne croient pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Par exemple, vous avez la Bible des témoins de Jéhovah. C'est cette Bible, bon, on a à peine appelé cela une Bible, hein, parce que c'était traduit pour faire passer les doctrines des témoins de Jéhovah. Et c'est une très mauvaise traduction. Mais après, je suis persuadé que quelqu'un qui cherche Dieu vraiment, eh bien, peut se trouver réconcilié avec Dieu par le même avec une Bible des témoins de Jéhovah. Parce que Dieu est assez puissant pour ouvrir les yeux et pour montrer quelque chose dans sa parole que les témoins de Jéhovah n'ont pas réussi à falsifier, à fausser. Voilà. Je me rappelle d'une dame, elle était une enfant d'Israël, hein, et elle lisait l'Ancien Testament et elle a lu: Vous serez saints, car je suis saint. C'est dans le Lévitique. Hein. Elle lisait donc dans la Torah. Et elle a été convaincue de péché. Et elle a compris qu'elle avait besoin d'un sauveur. C'est parce qu'elle a été, brusquement, elle a compris à quel point Dieu était saint. Et que justement, elle ne l'était pas. Et que entre elle et Dieu, il y avait non pas un abîme, mais un univers. C'est entre la sainteté de Dieu et la corruption de l'homme, il n'y a rien de commun. On ne peut faire aucun rapprochement. Alors, elle a compris cela. Ça lui a ouvert les yeux et elle a commencé à chercher Dieu vraiment et elle a découvert Jésus-Christ, le Messie d'Israël qui l'a sauvée et elle était réconciliée avec Dieu. Mais donc, je souligne avec la plus grande force que nous devons tenir pour certain le texte biblique que nous avons entre les mains. Parce que si nous entrons dans la polémique et dans le jeu de l'ennemi, eh bien, nous avons des doutes. Ne sommes plus assurés dans la parole de Dieu. Alors, je peux dire, hein, il est vrai qu'il y a des versions qui ne rendent pas justice au texte biblique des écrits hébreux et grecs. Ça, c'est vrai. Hein? Il y a de mauvaises traductions et il y a de meilleures traductions. Et nous devons faire, bien sûr, le choix des bonnes traductions. C'est après les mauvaises, eh bien, on déplore qu'elles soient mal traduites, mais mettez de côté tout simplement. Donc, c'est très important de savoir ce que Dieu a dit réellement. Parce que l'ennemi, s'il a réussi à mettre le doute dans notre cœur, eh bien, il aura tout le reste de notre vie. Comment pouvons-nous vivre une vie chrétienne avec une pleine confiance en Dieu si le texte même qui nous parle de Dieu, eh bien, est sujet à des doutes, à nos doutes? Nous disons, ben, il y a des doutes, je ne suis pas certain. Et c'est la foi des chrétiens est minée par toutes ces polémiques et tous ces gens qui parlent. Oui, mais vous savez, les apôtres ont parlé, mais on a perdu, et puis on essaye de retrouver, et mais on a, au fur et à mesure, les savants recherchent. J'ai entendu ce genre de phrases des dizaines de fois, et je peux vous dire, ça n'aide pas. C'est pas une bonne chose. Dieu s'est révélé. Et non seulement Dieu s'est révélé, mais il a fait en sorte que cette révélation parvienne jusqu'à nous. Parce que ce ne serait pas juste que ceux qui ont reçu la révélation auraient eu le privilège de l'intégralité de la révélation et nous, nous n'aurions pas. Et qu'au fur et à mesure des siècles, eh bien, les choses seraient passées tellement que on ne saurait plus. Et il y a eu au cours des siècles, beaucoup de gens qui ont laissé entrer le doute et qui ont dit oui, mais ce n'est pas tout à fait. Mais même depuis la première Église, hein, vous aviez Origène qui a dit que le texte avait été corrompu et qu'il fallait retrouver le bon texte. Et C'est comment vous retrouvez le bon texte? Et Origène n'a pas ma sympathie, hein, parce que d'une part, c'était un véritable hérétique, et puis ensuite, il avait des doutes sur le texte biblique, et il a laissé entendre que nous n'avions plus le texte biblique. Donc ça, c'est dangereux. Après, il y en a eu d'autres, hein, surtout au XVIIIe siècle, où la Bible était très, très, très attaquée. C'est les fameuses contradictions de la Bible et les impossibilités de la Bible. Vous connaissez, hein, tous les 18e siècle est rempli de gens qui ont posé ces questions, mais c'était des malhonnêtes. C'est malhonnêtement. Il est vrai que nous ne savons pas certaines choses, comment les choses ont pu se passer. Mais si Dieu dit qu'il y a un miracle, il y a un miracle. Et Dieu est capable de faire des miracles. Alors les gens ne croyaient pas qu'il y ait des miracles. Alors ils disaient, oui, mais ça c'est inventé. Mais vous savez, les Ésaïe, il n'y en a pas un, il y en a trois. Alors il n'y a pas de prophétie. Hein, si, ils disaient, voilà, les événements sont écrits après. Les écrits, tout est écrit après les événements. Donc, comme il y a trois grands événements dans Ésaïe, il disait il y a trois Ésaïe. Mais un jour, miraculeusement, eh bien, c'est dans les années 50, tous ces gens étaient morts, hein, tous les contradicteurs étaient morts depuis longtemps, on restait, bon, ben, c'est comme ça. Eh bien, et même c'était entré dans les chrétiens. Je possède des livres où on parle de deux Ésaïe, trois Ésaïe, hein, mais on a découvert un rouleau complet d'Ésaïe. Et du 2e siècle avant Jésus-Christ. Et les prophéties d'Ésaïe sur Jésus-Christ, sa naissance miraculeuse, eh bien, faisaient partie d'un troisième Ésaïe. Voilà, c'était l'Ésaïe 3. Mais c'est 2 siècles avant Jésus-Christ, il y a les prophéties sur Jésus-Christ. Donc, il y a prophétie, il y a miracle, et il y a beaucoup de choses qui étaient remises en question. Mais les malhonnêtes n'ont pas dit, ah, mais tous ceux qui ont contredit la Bible se sont trompés, puisque nous avons trouvé un texte qui est beaucoup plus ancien que les événements. Donc 2 siècles, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup plus ancien que les événements. Donc ce ne peut être qu'une prophétie. Même si ça avait été prophétisé 50 ans avant, eh bien c'était une prophétie. Mais là, le texte lui-même est de 2 siècles avant Jésus-Christ. Donc le prophète était beaucoup plus avant que le texte même. C'était 8 siècles avant Jésus-Christ. Ésaïe, c'est 8 siècles. Hein. Et voilà, Dieu les a confondus et a montré que c'est toutes leurs idées, toutes leurs discriminations de la parole de Dieu, eh bien, c'était des folies. Mais malheureusement, les chrétiens ne vivent pas à la hauteur du niveau que Dieu a fixé parce que il y a le doute sur la parole de Dieu. Et toujours Satan est venu et a dit, Dieu a-t-il réellement dit? C'est pour cela que dans notre doctrine, eh bien, nous croyons qu'il y a une inspiration de la Bible. Dieu a inspiré le texte que nous avons. Alors, ce que l'on dit, hein, c'est qu'il y a une inspiration, il n'y a pas une dictée. Dieu n'a pas dicté les mots, mais il a inspiré. Si bien que les personnes ont écrit, avec leurs mots, avec leur culture, avec leurs phrases. Il y a un style. Par exemple, si vous lisez Jean, il y a le style de Jean. Mais si vous lisez Pierre, il y a le style de Pierre. Mais les doctrines qu'enseigne Jean ne contredisent pas celles de Pierre, et celles de Pierre non plus, celles de Jean. Vous avez la même pensée, mais vous avez la personnalité des écrivains qui est préservée. C'est le miracle de Dieu. Parce que c'est impossible autrement. La Bible, il y a 40 auteurs différents. C'est sur 1500 ans. Eh bien, il n'y a pas de contradiction. Il y a des apparences de contradiction. Mais nous ne sommes pas toujours, nous ne savons pas le contexte. Et nous ne connaissons pas toujours l'histoire de ces événements. Mais quand on fait des découvertes archéologiques ou historiques, hein, eh bien on se rend compte qu'elles vont dans le sens d'une approbation du texte biblique que nous avons. Alors, par exemple, il y avait des gens qui, c'est Voltaire, hein, il a dit que la Bible avait inventé un peuple. Le peuple qui a jamais existé. Non, les Hittites n'ont jamais existé. Mais aujourd'hui, personne ne mettrait en doute l'existence des Hittites. Et pourtant, la Bible en parlait. Et bon, à un moment, elle n'en parle plus parce que l'empire hittite, eh bien, avait disparu. Il s'est fondu dans les autres peuples. Et ça correspond avec la montée des Assyriens et des Babyloniens. Donc, premier empire babylonien et après les Assyriens. Mais ils se sont fondus dans ces peuples. Mais on a découvert un peuple qui s'appelait les Hittites. Voilà. Et Voltaire s'était moqué de la Bible parce qu'il disait la Bible a inventé un peuple. Et puis il disait la Bible a inventé une ville, Ninive. Et alors, quand vous lisez Jonas avec la grandeur de la ville, il fallait 3 jours pour faire le tour de la ville. Il rêve. Même Paris, on ne fait pas le tour de la ville en 3 jours. Oui, d'abord, c'est mal interprété. Parce que c'était la prédication de Jonas. Lui a fallu 3 jours pour prêcher dans les rues de Ninive. Donc c'était 3 jours de prédication, c'est pas 3 jours de marche. Simplement, avec un bâton, on fait le tour de la ville, et bien ça m'a pris 3 jours. Non, c'est 3 jours de prédication dans la ville de Ninive. Donc ça, c'est une chose. Et puis Ninive, eh bien, qui remettrait en question l'existence de Ninive? Et on s'est rendu compte que c'était une très grande ville. Et ce qui reste de Ninive ne donne pas la taille réelle de Ninive. Parce que comme vous savez, il y a des villes avec des murs, des fortifications, beaucoup de choses. Et puis autour, il y a ce qu'on appellerait des bidonvilles. Alors c'est fabriqué en bois, en chaume, en paille, en toutes sortes de choses. Et tout ça, eh bien, ça a tendance à disparaître. Au bout de 1000 ans, il n'y a plus rien qui existe. Alors vous retrouvez parfois des fragments de poterie ou des pièces ou des choses comme ça, mais vous ne retrouvez pas un mur, parce qu'il n'y avait pas de mur qui pouvait résister avec autant. Donc ce que l'on retrouve, c'est petit par rapport à ce que ça a été. Et puis ensuite, eh bien, il y avait un roi, il y avait beaucoup de choses sur lesquelles il se moquait. Et finalement, eh bien, ce sont ces gens-là qui avaient tort. Et malheureusement, eh bien, leurs pensées, leurs écrits sont restés. Et beaucoup de gens disent, oui, mais la Bible n'est pas si fiable que ça parce que, et puis Voltaire a dit, et Jean-Jacques Rousseau, et Diderot, et se sont bien moqués de la Bible. Mais on a les écrits de ces gens-là. Mais ces personnes n'ont pas lu les écrits qui ont été écrits pour contredire et rectifier les erreurs de ces personnes. Alors, comme ils ont écrit dans un style très littéraire, ce sont des livres de littérature. Tandis que ceux qui ont donné des réponses n'étaient pas des gens qui faisaient de la littérature. Ils répondaient à des problèmes. Et ils avaient autre chose à faire que de faire de la littérature. Ils ont donné des réponses. Et ce n'étaient pas des professionnels de l'écriture. Ils étaient professionnels dans d'autres choses. Certains étaient des scientifiques, d'autres étaient des religieux. Et ils représentaient toutes sortes de classes de la société, comme pour les écrits de la Bible. Mais c'était des gens qui ont dit non, vous dites des bêtises, ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme cela que les choses se sont passées. Mais ces écrits, eh bien, ont plus ou moins disparu. On les retrouve au fin fond des bibliothèques. Tandis que les gens, eh bien, continuent à lire Voltaire, Diderot, Jean-Jacques Rousseau et j'en passe, il y en a une dizaine à peu près. Tous ces gens, eh bien, comme c'était des moqueurs, et on aime leur esprit hein, de moquerie, ils le disaient avec beaucoup de talent et ça paraissait bien, c'était bien dit, mais c'était des erreurs. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui, parce que leur erreur est arrivé jusqu'à nous. Et à chaque fois, il faut dire, mais oui, mais ça, c'est une vieille question qui a eu des réponses au cours des 200 ou 300 dernières années, on a des réponses. Il y a des choses qui ont été dites sur cette question-là, et des gens autrement plus scientifiques que Voltaire et Jean-Jacques Rousseau et Diderot ont écrit. Ces trois que je viens de nommer, leur seule profession, c'était d'écrire. C'est tout. Ils ne savaient pas autre chose. Ce n'étaient pas des biologistes, ce n'étaient pas de vrais scientifiques. Ils n'ont jamais fait de fouilles archéologiques. Ils ne savaient même pas ce que c'était. C'était pour eux, c'était tout à fait une autre question qui ne les intéressait pas du tout. Ce qui les intéressait, c'est de détruire la Bible. Il y avait un monument devant eux et ils se sont attaqués à la destruction de ce monument. Parce que ils ont voulu prouver qu'ils étaient plus forts que Dieu. Et en fait, eh bien, c'était des insensés. Parce que quel est l'homme qui est plus fort que Dieu? Donc, nous avons une pensée qui vient jusqu'à nous, une pensée qui est on peut dire, diabolique, parce que ces gens-là, eh bien, étaient inspirés par le diable, pour remettre en question l'inspiration de la Bible, et que les faits que Dieu a donnés, eh bien, étaient parfaitement exacts. Pour vous dire, le fait que beaucoup de techniques et de choses sont pour nous, nous laissent totalement dans l'ignorance. Par exemple, on a découvert un tombeau égyptien qui s'enfonce largement sous la terre, mais bien. Et je pense qu'il a 180 mètres de long en tunnel. 180 mètres de long. Ce qu'il y a, c'est qu'on a toutes les salles, il n'y a pas de traces de suie. C'est-à-dire que si vous avez des torches pour faire parce que c'est rempli de hiéroglyphes et de peintures et de toutes sortes de choses, les murs et le plafond, hein, tout était rempli. Mais on n'a pas retrouvé les traces de fumée des torches. Comment ces gens-là ont-ils eu la lumière pour peindre des choses aussi exactes que des hiéroglyphes? Parce que les Égyptiens, leurs hiéroglyphes sont cadrés, hein. Vraiment, il y a rien qui dépasse, hein. C'était fait parfaitement. Comment sont-ils arrivés à le faire? Alors on a dit oui, mais non, vous vous trompez complètement. Il y a des miroirs. Alors il y a la lumière du soleil, on oriente un miroir et de miroir en miroir, on arrive à éclairer jusqu'à la dernière salle. Si vous ne cherchez pas plus loin, vous allez trouver cette idée géniale. Mais malheureusement, les miroirs, c'était du bronze poli. Ce n'étaient pas les miroirs que l'on connaît aujourd'hui. C'était du bronze poli. C'est-à-dire qu'au bout de 30 mètres, vous êtes dans l'obscurité totale. On n'arrive pas à 180 mètres. Alors aujourd'hui, on ne sait pas comment ils ont peint ces salles-là. Avec quelle lumière? On ne sait pas. Hein? C'est tout. C'est pour vous dire que dans les événements de l'Antiquité, il y a le cas de le dire, des obscurités. On ne sait pas. Et il faut avouer que, par exemple, Moïse parle de certaines choses et il y avait des techniques, il y avait des manières de faire qu'eux connaissaient et nous, nous ne savons pas. Et on doit avoir l'humilité, l'honnêteté de dire, au point des connaissances d'aujourd'hui, nous ne savons pas. Nous n'avons pas une vraie solution. Voilà. Ça, c'est l'inspiration de la Bible. Dieu a inspiré. Il y a des choses, il n'y a pas d'explication pour l'instant. Mais cela est donné à notre foi. Nous croyons et nous faisons confiance à Dieu. Alors, il y a des multitudes de passages de la Bible. Quand vous les lisez, si vous avez des doutes sur l'inspiration de la Bible, eh bien, vous aurez des doutes pour votre vie chrétienne. Et sur des passages très clairs et très positifs, qui donnent une bonne direction pour votre vie chrétienne. Et vous dites, mais est-ce que c'est bien écrit? Est-ce que Dieu a réellement dit? Et de nouveau, vous allez retomber comme dans le jardin d'Éden, avoir un doute sur la parole de Dieu et transgresser une pensée positive, claire de la parole de Dieu, parce que Satan a installé un doute. Alors, notre vie chrétienne doit être une vie de prière, d'obéissance à Dieu, de marche fidèle à Dieu, de consécration à Dieu, d'amour pour les âmes perdues, pour les frères et sœurs en Christ. Tout cela, ce sont des paroles bibliques et un enseignement biblique. Mais si nous avons laissé le doute sur la parole de Dieu s'installer dans notre cœur, alors nous ne serons pas fidèles dans ces choses. Nous mettrons des nuances. Et ces nuances, eh bien, ça s'appelle de la désobéissance. Adam et Ève, eh bien, ont mis des nuances à la parole de Dieu. Satan a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Voltaire a posé la question, il a dit, Dieu n'a pas... Non, je crois en Dieu, oui, mais pas la Bible. Parce que la Bible est remplie d'erreurs, c'est ce qu'il disait. Mais la Bible n'est pas remplie d'erreurs. Elle est proposée à notre foi. Et nous devons placer notre confiance. Il y a des choses sur lesquelles il y a eu des vérifications. En effet, la Bible a bien dit ce qu'elle a dit. On a découvert et on a vu que c'est la Bible qui avait raison. Mais pas pour tout. Nous devons placer notre foi. Alors on ne comprend pas tout, mais on fait confiance que ce que Dieu a dit, c'est vraiment sa parole. Et nous avons entre les mains la vraie parole de Dieu. Et nous devons placer notre confiance. Quand vous lisez un verset biblique, vous dites Dieu a parlé. C'est Dieu qui a parlé. Je place ma foi dans ce verset. Parce que Dieu a vraiment dit ce qu'il a dit. Si Dieu dit que je dois prier, d'une certaine manière, il a vraiment dit. Et je suis responsable pour le faire. Si Dieu dit de méditer sa parole, je suis responsable pour le faire. Mais si j'ai laissé le doute s'installer, j'aurais du mal à le faire. J'aurais pas suffisamment de motivation pour dominer ce doute. Et Satan a gagné. Et toute cette interprétation biblique et toutes ces contradictions sont là pour que nous n'obéissions pas, pour que nous soyons diminués dans notre vie chrétienne et dans notre zèle pour Dieu. On est diminué, tout simplement parce qu'il y a l'incrédulité qui s'est installée. Voilà, je vais arrêter ici.